Chapitre 65. En découdre. Avec le temps, je me suis attachée à Diane. Sensible à son bien-être et à ses moments de faiblesse, je m'accorde le droit d'avoir de l'affection pour ma thérapeute. Vous n'avez pas l'air en forme. On le voit tant que ça? C'est un comble quand même qu'un patient trouve que quelque chose ne va pas chez sa psy. Je commence à vous connaître. Je suis un peu fatiguée. Vous bouffez de chaleur. Et il est difficile de les faire passer inaperçus. Elles m'empêchent un peu de dormir. Ne vous inquiétez pas, parlons plutôt de vous. Que souhaitez-vous me raconter? Plein de choses, au point que je ne sais pas par où commencer. Ce qui vous a le plus touché depuis la dernière fois? Les lèvres de Capucine? Au propre ou au figuré? Les deux. J'ai renoué avec la tendresse. La tendresse humaine pure. Un oasis au milieu de mon désert. Cette façon qu'elle avait eue de se coller à moi la première fois m'avait déjà abreuvée et libérée. Mais m'embrasser fut comme un jaillissement au milieu du sable brûlant et sec. Les lèvres. Cette étape supplémentaire qui ouvre la porte à des sensations bien plus vivifiantes. Je parle à Diane de mes petits pas vers Capucine. De cette évidente nécessité de prendre le temps, de ne sauter aucune étape. De sa fragilité quand on la bouscule, et de ma peur de lui paraître intrusif. On abîme la mésange à l'enfermer dans des mains trop serrées. Vous devenez poète? J'évoque également Oscar, mon désarroi quand elle m'a parlé de lui. Cette fuite subite de sa part, un peu violente pour moi, de laquelle elle est vite revenue et qui m'a fait prendre conscience de ses peurs à elle, et de mes sentiments à moi. J'ai vraiment cru qu'elle avait un petit ami et un pan de mes espoirs s'est effondré comme si l'évidence que je ressentais avait été tronquée. Et puis quand j'ai découvert qui était Oscar, ce soulagement et cette chaleur vive au fond de moi ont fait renaître l'espoir de ses cendres et m'ont autorisé à y croire. À croire qu'on peut croiser une femme au hasard et décider sans attendre que c'est elle. Qu'il est bon de se sentir amoureux, n'est-ce pas? Je me sens vivant. Elle me donne envie de rapatrier la part de moi qui est restée au Mali. Redevenir entier et solide. Pour elle et pour moi. Je ressens de nouveau le besoin d'en découdre. Avec qui? D'en découdre, peu importe avec qui, avec quoi, d'en découdre. Vous retrouvez l'élan vital en quelque sorte. Vous parlez d'elle comme d'un miroir. Je me découvre dans ses yeux. Et je la vois se reconnaître dans les miens. Comme si on avait la clé de quelque porte inconnue de l'autre. C'est beau ce que vous dites. Vous avez su en découdre avec le hasard, le provoquer et ne pas le laisser passer. Voilà la force d'une vraie rencontre. Sentir le bon moment et la bonne personne. Je suis parfois pétrie de doutes quant à la possibilité d'une telle rencontre. Trop belle pour être vraie? Vais-je en souffrir en retombant les deux pieds sur terre? Quand je repense à ce scénario possible, je ressens le même vide que quand j'étais accrochée à l'hélico. Or, je ne veux plus de ce genre de chute vertigineuse. Vous avez tenu bon. Pourquoi ne serait-ce pas le cas ici? Parce que la suite des événements ne dépend pas que de moi. Le risque de se faire mal en tombant, si. J'ai peur de perdre si je m'attache trop. Tout dépend de la façon dont vous vous attachez. Tous les liens ne sont pas des entraves. Certains peuvent se détacher sans vous arracher un morceau de peau. Peut-être seulement parce que vous pouvez décider de ne jamais les défaire. Mais si nos chemins se séparaient, vous pourriez quand même la garder au fond de vous. Quand l'amour est véritable, il ne disparaît pas avec la personne. Je réalise après 3 ans de thérapie à quel point, quand on commence à tirer sur un bout de la pelote, celle-ci dévoile 1000 nœuds dont nous n'avions pas conscience. Je pense à toutes ces personnes qui refusent l'idée même d'aller parler d'eux. Parce qu'ils ne sont pas fous, parce que les psys ne servent à rien, parce que ça coûte cher, parce qu'ils vont bien, merci. Ces séances m'aident à prendre de grandes décisions. Je vais quitter les armes. J'ai déposé mon dossier de départ. Quelque chose vous a décidé? Un tout. Les bras de Capucine, ses propres errements. Je veux cesser de côtoyer la bassesse humaine, les bombes, les terroristes, les enlèvements. Il me faut de la beauté. Je consacre le reste de la séance à lui raconter mes découvertes terribles dans mon enquête personnelle concernant l'accident. Ma visite auprès du vieux monsieur, puis du jeune Simonet en prison. D'abord, je me suis dit que ce vieil Albert perdait la boule, qu'il avait inventé toute cette histoire, qu'il en avait fait une fixation, une affaire personnelle, en récoltant tous les articles, en entretenant une correspondance avec l'accusé. Mais Kevin a confirmé ce qui s'était réellement passé après l'accident. Son émotion en me l'avouant n'était pas feinte. Je ne comprends rien, je crois que vous allez devoir m'expliquer. Elle se lève et ouvre la fenêtre quelques instants en me demandant de poursuivre mon récit. Quand l'accident a eu lieu, Albert Peter Schmidt ne dormait pas encore. Il lisait dans son fauteuil au salon, dont la fenêtre donnait sur la rue. La puissance du choc l'a fait sursauter au point d'en lâcher son livre. C'est dire s'il avait tous les sens en éveil. Il s'élevait péniblement, aidé de sa canne. Un genou usé le faisait terriblement souffrir. Avant d'entrouvrir les rideaux, il a pris le soin d'éteindre la lumière pour mieux voir à l'extérieur. La voiture percutée ne ressemblait plus à rien, un amas de tôle. Celle qu'il avait emboutie, une grosse cylindrée avait tenu. L'avant enfoncé, mais l'habitacle quasi intact. Un homme en est sorti côté conducteur, puis un autre un peu sonné côté passager. Il se tenait à la voiture pour ne pas tomber. Le conducteur est allé voir dans l'autre voiture. Albert s'est dit qu'il faisait un état des lieux du nombre de blessés et qu'il allait appeler les secours. Le conducteur a réfléchi quelques instants, puis s'est dirigé vers le passager qui se tenait le ventre, l'a empoigné et l'a forcé à s'installer au volant. Albert a entendu « Qu'est-ce que tu fous ?» d'un ton affolé et un « Ta gueule !» d'une voix plus grave. Et le conducteur a pris la place du passager en attendant les secours. Puis, plus rien. Ignorant s'il avait appelé depuis le véhicule, Albert s'est quand même rendu avec beaucoup de difficultés jusqu'à son téléphone dans la cuisine pour composer le numéro d'urgence. Il s'est posé la question de descendre, mais la douleur dans sa jambe était trop forte, et le temps qu'il arrive, en regardant à nouveau par la fenêtre, il a vu au loin sur la route qui vient des coteaux la lumière bleue des pompiers qui venaient du village voisin. Diane a refermé la fenêtre en claquant les battants. Elle s'assoit, me regarde choquée. Ils n'ont pas essayé de secourir ceux qui étaient dans l'autre véhicule? Manifestement, non. Ils étaient encore vivants. D'après le compte-rendu, sa mère est morte sur le coup, son père juste après l'arrivée du SAMU, et la troisième occupante était très gravement blessée. Mes investigations ne m'ont pas permis de la retrouver. Je sais seulement qu'elle n'est plus inscrite à l'ordre des médecins depuis l'année de l'accident. Sa vie a basculé, je n'ai pas insisté. Albert, la fenêtre entrouverte, a entendu le médecin du SAMU dire aux gendarmes que l'homme, à quelques minutes près, aurait pu être sauvé. Pourquoi avoir fait cet échange? Kevin m'a dit que son frère avait trop bu, fumé des joints et qu'il avait grillé le stop à pleine vitesse. Qu'il voulait entrer dans un métier de sécurité et qu'il lui fallait un casier judiciaire vierge. Qu'il a sacrifié son frère en lui faisant porter le chapeau. C'est Kevin qui s'est sacrifié, non? Il aurait pu refuser. Il a toujours été le mouton noir de la famille. Mauvais en classe, réservé, faible. Son frère Yvon était une grande gueule qui manipulait tout le monde à son avantage, y compris ses parents, et qui écrasait son frère. Kevin le craignait, tout s'est passé très vite et il avait des vertiges terribles suite au choc, il tenait à peine debout. Il n'était pas en état de résister. Quand les gendarmes sont arrivés, c'était trop tard. Ils l'ont trouvé au volant. Son frère avait rattaché la ceinture de sécurité sur lui et sur son avenir. Et comme il avait bu lui aussi, fumé du shit, et qu'il était jeune conducteur, il a pris cher. Quand sa mère est venue le voir en détention provisoire, il a essayé de lui dire ce qui s'était passé. Elle ne l'a pas cru. Elle lui a même reproché de vouloir faire accuser son grand frère. Yvon lui avait déjà raconté la version officielle. Kevin a compris qu'il ne pourrait rien prouver. Diane ne dit rien. Elle encaisse, comme je l'ai fait sur le moment. Je lui parle alors de la correspondance entre Kevin et le vieux. Il ne lui a jamais avoué qu'il savait. Il voulait seulement le soutenir durant ses années d'enfermement injuste, en gardant un lien, en parlant de tout et de rien. Il était le seul à savoir, avec Yvon Simonet, qu'il était enfermé à tort. Cette correspondance est touchante, mais s'il avait parlé, ce gamin n'aurait pas passé tout ce temps en prison. Personne n'est jamais venu lui poser de questions. Il n'y a pas d'enquête de voisinage quand les faits semblent évidents et qu'on a les aveux du mis en cause. Les gendarmes ont vu Kevin au volant en arrivant, ceinture bouclée. Qui aurait cru M. Peter Schmidt s'il avait débarqué, du haut de son grand âge, pour affirmer le contraire? On l'aurait pris pour un vieux qui perd la boule. Quelle histoire! Capucine est au courant? Non, je ne sais pas si je dois l'en informer. Nous allons devoir nous arrêter, je vous laisse y réfléchir. Pour ma part, je ne lui dirai rien.